La première. Podcast. Jusqu'à 11h, tout le monde y passe.
Et nous accueillons à présent Marcel Thermol. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour
et
à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez travaillé à la RTBF en télé et aussi en radio. Vous vivez à Metz, c'est dans le sud de la France et vous y vivez depuis 2003. Vous êtes avec nous ce matin à l'occasion de la sortie de ce livre, de votre livre « L'insolente, le chemin de vie d'une journaliste de Charleroi à Metz ». Nous sommes ici en direct de l'expo vue à la radio. Alors commençons par là, par votre expérience en radio. Vous racontez dans votre livre que c'est à Mons que vous avez appris le métier de journaliste radio. Quel est le souvenir que vous conservez de cette première expérience radio, Marcel Thermol ?
Je me souviens que j'avais très peur. Très peur du micro. Je ne savais pas du tout comment... Oui, vraiment. Et je me souviens également que... Comme souvent, à l'époque, bon, on ne faisait pas d'études de journalisme, ça n'existait pas, donc on avait fait d'autres études. Par conséquent, le métier, il a fallu pratiquement le voler, l'apprendre sur le tas. Et fort heureusement, j'étais encadrée par, à l'époque, il y avait des speakers. Alors, il y en avait un qui s'appelait Daniel Voss, que j'ai connu par la suite, qui nous reprenait systématiquement lorsque nous prononcions mal les mots. Il était absolument impitoyable. J'ai appris également le journalisme avec Jean Fievé, qui lui avait une expérience dans la presse écrite. Il travaillait pour Nord Éclair, et grâce à lui, j'ai appris l'écriture journalistique, parce que j'ignorais totalement comment on écrivait un billet. D'ailleurs, j'ai réentendu des billets que j'avais fait à l'époque. Aujourd'hui, un journaliste s'exprimerait comme ça, on le vire, parce que ça a changé.
Et après la peur et après l'apprentissage, il y a eu du plaisir ?
Absolument. La radio, je ne connais pas un journaliste qui ait fait à la fois de la radio et de la télé qui n'ait une tendresse particulière pour la radio. Parce que c'est un média où on se sent d'abord beaucoup plus à l'aise parce qu'il y a beaucoup moins de filtres techniques, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus souple. Ensuite, on a des écrans infiniment plus larges, on peut s'exprimer alors que la télé, il y a 2 grands messes par jour, enfin 2 et demi avec le dernier JT, et donc ça ne donne pas beaucoup d'occasions de s'exprimer et d'aller un peu plus profondément dans l'information.
Et pourtant, c'est du côté de la télé que vous avez passé l'essentiel de votre carrière, Marcel Thermol.
Tout à fait.
C'était le fruit du hasard ou un choix ?
Non. Lorsque j'ai été recrutée en 1970, on était en pleine décentralisation. Et donc j'ai été recrutée d'abord à Mons parce que j'étais carolo. Et que du côté carolorégien, on considérait que l'information était trop orientée vers Mons, Tournai, ces régions-là, et pas du tout Charleroi. Donc, on nous a recrutés, Jean Fievé et moi, par le biais quand même d'un examen sérieux, sévère, puis-je le dire, pour représenter un peu la sensibilité carolorégienne. Et puis, il y a eu la création du centre RTBF Charleroi, qui lui était un centre de télé, puisque Mons était un centre radio. Il ne pouvait pas y avoir deux centres radio dans la même province de Hainaut, et donc c'était un centre télé. Et là, j'ai fait partie des pionniers de la télé à Charleroi.
Alors vous avez présenté notamment Antenne Soir, le journal des régions en télé, et dans nos archives nous avons retrouvé un extrait.
Oh,
écoutez, nous sommes en 1981.
Oh là là. La coéducation, c'est un grand mot qui signifie que l'on souhaiterait plus d'égalité dans l'éducation des garçons et des filles. Pratiquement, cela signifie qu'on demandera aux jeunes filles de manier allègrement la clé à molette et aux garçons de manier, eux, le rouleau à pâtisserie. C'est donc pas un hasard si un mouvement féminin et même féministe, les femmes prévoyantes socialistes de Charleroi, ont organisé un cours de cuisine spécialement destiné aux hommes.
Vous vous souvenez de ce lancement-là ?
Oui, je m'en souviens. Oui, effectivement, parce que c'était Jean Fievé qui présentait à cette époque-là, et ça l'avait beaucoup fait rire. Et bon, je dois dire que mes collègues masculins nous ont regardés d'un air un peu goguenard, je peux le dire.
Alors, vous avez présenté Antenne Soir. Dans votre livre, vous êtes très sévère à propos des médias et du journalisme. Aujourd'hui, vous écrivez par exemple, à l'époque, on n'avait pas encore laminé les neurones des auditeurs à la grand-messe du sport, au spectacle facile, à la télé-réalité et à la soap télé en général. Le téléspectateur était spectateur avant d'être consommateur. La télé et le journalisme, c'était bien mieux avant, Marcel Termol ?
Non, je n'ai pas dit cela, pas du tout. Je dis que je ne parle pas des journalistes là, je parle du contexte. Lorsque le patron de TF1 vient crânement expliquer que tout l'entourage de sa grille de télé est conçu pour préparer les cerveaux des gens à la pub, je trouve que c'est injurieux vis-à-vis de l'auditeur ou du téléspectateur. Pardon. De l'auditeur ou du téléspectateur. Je trouve ça absolument inadmissible. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, dans certains médias en tout cas, on ne respecte pas le téléspectateur.
Et ça signifie aussi que c'était plus confortable, plus agréable, selon vous, d'être journaliste il y a 30 ou 40 ans ?
Je ne sais pas, je suis restée journaliste, il me semble, et je suis passée, bien sûr, parce que je continue à m'intéresser à l'actualité. Par conséquent, je suis aussi passée au multimédia et aux outils contemporains. Je dirais qu'il y a une telle explosion aujourd'hui d'informations que, alors c'est bateau de le dire, mais trop d'infos tue l'info. Et il est extrêmement difficile de s'y retrouver. Et à mon sens, pour la personne qui écoute ou qui regarde les infos, de se fonder vraiment une idée sur le monde d'aujourd'hui qui est en pleine mutation. Et je crois que la télé et la radio sont à l'image du monde d'aujourd'hui, un peu confus, en mutation. On va quelque part, mais on ne sait pas trop où et on ne sait pas trop comment non plus.
Vous avez quitté la RTBF avant l'âge de la retraite et vous dites dans une interview « Quand j'ai quitté la RTBF en 2003, j'avais atteint la date de péremption. J'étais devenu totalement inadapté aux évolutions de l'époque et je n'étais plus trop d'accord avec les évolutions rédactionnelles. » Quelle est la date de péremption pour une journaliste, Marcel Termol ?
Ça ne y a pas, mais moi, oui, parce que moi, j'avais tout investi dans la régionalisation. J'ai pris les choses à cœur, trop à cœur sans doute, parce que je suis une passionnée. Et j'ai bien anticipé les évolutions et la fin de la régionalisation, en tout cas telle que je la connaissais. Et je n'ai pas voulu le voir. Comme je prenais les choses à cœur, évidemment, j'ai eu des problèmes cardiaques et j'ai atteint la date de péremption et je suis partie.
Et quelles sont les évolutions rédactionnelles qui ne vous plaisent pas, qui ne vous plaisaient pas en tout cas ?
Mais c'est-à-dire qu'à Charleroi, nous avons inventé les grandes émissions d'information qui ont marqué la chaîne, notamment Au nom de la loi, Carte sur table, un magazine économique éco, enfin bon, Antenne Soir, bon, toutes ces émissions étaient faites en région. Et bien là, on a décidé de tout recentraliser sur Bruxelles, en tout cas pour l'info, pour le divertissement à Liège et pour les magazines à Charleroi. Et donc, à part le bureau local d'information, il ne reste plus rien de ces émissions à Charleroi. Et on a mis tout le monde sur les routes. Et tout le monde s'est retrouvé sur l'autoroute de Charleroi-Bruxelles, Charleroi-Liège, etc. Et moi, je n'avais pas envie de ça.
L'insolente, c'est donc le titre de votre livre. Insolente, c'est l'adjectif qui vous définit le mieux, Marcel Termol ?
C'est celui que j'ai trouvé le plus adéquat. Dans la mesure où il braque le projecteur sur l'un de mes défauts, qui est aussi une de mes qualités. Parce que pour être journaliste, il faut être capable d'aller au contact, de pousser l'interlocuteur dans ses retranchements jusqu'à l'insolence.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous raconter, à raconter le chemin de votre vie ?
Eh bien, ça, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai toujours écrit, mais jamais sur moi, évidemment. Et puis un jour, je m'y suis mise. Et sans idée préconçue, j'ai pas dit je vais écrire un livre, j'ai écrit pour moi d'abord.
C'était un journal intime au départ ou
non,
presque ?
Non, c'est une espèce de psychanalyse comme ça. J'ai pas fait de plan, j'ai pas dit je vais dire ça, j'ai pas fait un listing de ce que j'allais raconter. J'ai procédé par association libre, hein, comme on le fait dans une psychothérapie, si je peux le dire. Mmh. Et finalement, ça a été une psychothérapie parce que je pense que ça m'a permis, en effet, de tourner la page. Et surtout, j'ai voulu donner mon propre regard sur des événements de ma propre vie et de choses que j'ai vécues. Donc, comme journaliste, j'ai toujours dû revendiquer, sinon l'objectivité, c'est toujours très difficile, mais en tout cas, une certaine honnêteté intellectuelle quand même dans ce que je faisais. Ici, je revendique dans ce livre une totale subjectivité. C'est mon regard, c'est mon point de vue.
Votre regard, votre point de vue, un travail psychanalytique, vous venez de nous l'expliquer. Mais pourquoi avoir décidé de le partager avec les autres ? Ça aurait pu rester dans vos tiroirs cachés secrètement.
C'est pas tout à fait moi qui ai décidé de partager. J'avais écrit une cinquantaine de pages et j'ai une amie qui est mon amie d'enfance, Danielle, qui est philologue. Elle est venue passer quelques jours à Metz et je lui ai donné à lire les 50 premières pages. La dernière, c'est bien, c'est intéressant, continue. Et puis, l'année suivante, il y avait les 130 pages du livre. Et elle a relu et elle m'a dit, je dis, tu crois que ça pourrait intéresser ? Elle m'a dit, oui, je crois que tu devrais publier. Et donc là a commencé une aventure. Marcel Antel a reconnu, parce que le monde de l'édition, moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout, je ne sais pas du tout. Je dois dire que ce n'est pas triste. C'est un parcours du combattant. Mmh. Et donc, un pas après l'autre, finalement, j'ai trouvé un éditeur. Et après avoir trouvé l'éditeur, il a fallu, parce qu'on est passé au numérique, hein, je m'en suis rendu compte aussi, mais là-bas, assez durement. Donc il faut faire la mise en page soi-même, dans un format prédestiné, avec des marges, avec des pieds de page, avec ça commence sur la page paire, ceci sur la page impaire, enfin bref, l'enfer. Donc je m'y suis collée. J'ai trouvé ça très instructif quand même. Et puis après, il a fallu assurer le service après-vente, si j'ose dire. Mmh. Et me voilà chez vous.
Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce matin dans votre livre. Vous parlez de Charleroi et vous dites « Quand je reviens, je suis frappé par cette ville où sointent la pauvreté, la crasse, l'abandon, le manque de respect de soi-même qui accompagne les grandes catastrophes. La vie y est dure, chacun pour soi. » Est-ce que vous portiez le même regard sur Charleroi quand vous y viviez ?
Oui, je pense. Mais je dis ça avec amour pour ma ville, finalement. C'est pas parce que je me revendique de cette ville. C'est ma terre, j'y suis née. Elle a une histoire.
Vous dites d'ailleurs, quoi que je dise ou désire, j'appartiens à cette ville comme cette ville m'appartient.
Exactement.
Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, exactement ?
Ça signifie que... On est toujours né quelque part, et je suis né là. Alors, j'ai changé de vie, je suis allé m'enraciner dans une autre terre, mais on emporte toujours son histoire, on emporte toujours son passé. Je me suis implantée à Metz, mais je ne suis pas mézoise. Enfin, si, je suis mézoise d'adoption, mais je ne suis pas née là. Et à Charleroi, pour revenir sur Charleroi, j'ai redécouvert Charleroi, bien sûr en travaux, je le savais, parce que j'ai quand même des informations sur ce qui s'y passe. Je trouve que c'est un peu dommage que ce que l'on fait aujourd'hui, on ne l'ait pas fait il y a 20 ou 30 ans, parce que je connais Montpellier, et Montpellier, cette mutation, elle l'a faite à l'époque de Georges Frêche, hein, donc il y a près de 30 ans, à l'époque où, d'ailleurs, la ville de Lille aussi s'est redéployée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à Lille Mauroy et à Montpellier Frêche qui étaient.
Et pourquoi est-ce que ça ne bouge pas à Charleroi ?
Mais ça bouge maintenant, ça bouge, mais ça bouge tard avec des dégâts collatéraux qui sont considérables. Mmh. Alors, bon. Quand je parle de la crasse, etc., mon ami qui m'a accompagné, qui est mon chauffeur et mon bodyguard Nada, qui est à côté de moi, nous avons pris l'autoroute et de chaque côté de l'autoroute, il y avait des poubelles, il y avait des canettes, il y avait des papiers gras, il y avait comment on appelle ça, les protections de l'autoroute rouillées, et ça n'a pas changé, ça. Et je veux dire que quand on rentre dans Charleroi et qu'on voit ces poubelles de partout, ça fait pas vraiment bonne impression.
Il nous reste à peine quelques secondes et j'ai encore au moins une question à vous poser. Oui. La voici. Vous dites qu'à Metz, vous avez dû revoir toute votre grille de décodage des comportements. Vous écrivez sur la Méditerranée, les hommes sont condescendants, tout ce que vous voudrez, mais ils sont délicieusement courtois, prévenants et attentionnés. Oui. Nous ne sommes pas attentionnés, donc ici en Belgique, dernière question.
Si, mais dans une société urbaine et post-industrielle n'est pas une société rurale et patriarcale à force sentiment identitaire comme la société mézoise. Et donc les relations entre les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici, elles sont beaucoup plus égalitaires et beaucoup plus violentes. C'est le prix à payer. Et on le paie, moi je suis d'accord de le payer. Là-bas, on est dans une société avec un partage plus sexué des tâches, un patriarcat d'un côté et un matriarcat qui lui répond de l'autre côté. Et je trouve les relations entre les hommes et les femmes plus apaisées.
Merci Marcel Termol d'avoir été avec nous ce matin. Si vous voulez en savoir plus sur l'insolente, vous pouvez découvrir ce livre, L'insolente, le chemin de vie d'une journaliste de Charleroi à Metz. Merci à vous et bonne journée.